France Inter.
À vous qui nous écoutez en podcast, on a rendez-vous avec... Tout le monde l'adore. C'est la Lady Gaga de la voile. Elle a traversé l'Atlantique en crocs à fleurs. Elle m'épate, elle épate tout le monde. Et on va bien commencer l'année avec celle qui a bouclé un Vendée Globe l'année dernière. Oui, Violette d'Orange avec nous pour l'apéro. Bonjour Violette d'Orange. Mais vous êtes beaucoup trop rapide. Elle a mis le foil. Moi, j'ai pas de foil en fait. Et du coup, j'ai raté ma blague parce que je voulais faire... Et voici que Violette d'Orange franchit la ligne d'arrivée du bistrot et c'est foutu.
Trop tôt.
Bienvenue. Très heureuse de vous rencontrer.
Et ben moi aussi, de même.
Eh ben allons-y alors. J'ai plein de choses à me raconter. À nous raconter.
Charline Vanhoenacker. Bistroscopie sur France Inter.
Bonne année, Violette d'Orange.
Bonne année.
Meilleurs vœux.
Merci, c'est gentil.
Le 9 février de l'an dernier, Violette, à 23 ans, vous bouclez le tour du monde en 90 jours et 22 heures. Vous arrivez 25e au Sable d'Olonne sur 40 concurrents. Mm-hmm. Le Vendée Globe, bien sûr. Ce jour-là, je pense que toute la France est derrière son écran ou sa radio pour vivre ce moment avec vous. Là, on est le 3 janvier. Vous vous rappelez plus ou moins où vous étiez l'année dernière, tout début janvier ?
Je pense que tout début janvier, je devais être pas loin du Brésil, peut-être. Mm-hmm. Je ne sais pas si j'avais encore passé le Cap Horn ou pas, mais peut-être que j'étais sur la remontée.
On va ouvrir votre carnet de bord, mon premier Vendée Globe, paru chez Gallimard. Alors là, donc, le 3 janvier l'année dernière, à la même date, il y a un an, vous êtes dans le Pacifique Sud. Je pense que vous venez de passer le point Nemo.
Ah oui, je suis bien en amont. Ah oui, je suis allée un peu vite dans ma tête. Mais je me souviens plus.
Toujours plus vite, vous, c'est fou. Peut-être qu'au prochain Vendée Globe, c'est à ce moment-là que vous
serez. Peut-être que au prochain Vendée Globe, je serai déjà en train de remonter l'Atlantique. Mais c'est vrai que ouais, j'avais déjà passé le point Nemo. Et ça veut dire qu'il me reste une partie bien costaud de la course.
Ah oui. Donc le point Nemo, rappelez-nous, c'est...
C'est l'endroit le plus isolé sur la planète. C'est un endroit où on est le plus loin de toute civilisation. On est à bien 4 jours au moins des secours, quoi.
Ah ouais. Donc s'il y a un problème, il faut compter sur un autre concurrent ou sur la station spatiale internationale.
Oui, c'est ça. Non, c'est vrai que la station ISS est plus proche de la civilisation que nous en mer. Et à ce moment-là, c'est surtout les concurrents qui sont notre sécurité.
Ah oui. Et donc là, on va se replonger il y a un an. Vous parlez dans votre carnet de bord de grains polaires et de flocons de neige de l'Antarctique. Ça doit être une image incroyable qui reste en tête.
Ça, c'est un des moments les plus forts du Vendée et les plus beaux. Je suis vers la fin du Pacifique, on va dire, et là, il y a du vent de sud qui apporte ces grains polaires, ces gros nuages qui sont remplis de grêle, de neige. Et entre ces nuages, il y a un soleil assez beau, assez fort. Enfin, j'ai une image un peu magique où il neige et en même temps il y a un peu un arc-en-ciel sur le côté. Enfin, vraiment, c'était lunaire comme condition et c'était magnifique à voir. Et puis à ce moment-là, je me disais, mais je suis loin de tout avec les concurrents. On est les seuls au monde à avoir cette vision et l'océan est magnifique.
Et là, aujourd'hui, un an après, vous êtes dans un bistrot. À Paris et sur France Inter. Vous écrivez dans ce carnet de bord la veille, je n'arrête pas de partir au tas.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe là? Ça veut dire quoi?
Partir au tas, c'est quand le bateau fait comme une sortie de rail, on va dire. Le vent est un peu trop fort et il perd son équilibre et du coup il va faire une sortie de route, il va se mettre sur le côté à énormément pencher, à presque la verticale. On a une sensation de verticale dans le bateau. Et c'est pour ça que ce jour-là, j'étais très heureuse. C'est que la veille, j'avais réussi à traverser un passage où le vent était très irrégulier et le bateau faisait que de partir au tas toute la journée. J'avais du mal à trouver mes réglages et trouver l'équilibre. Et donc, ce lendemain, j'en étais ressortie et j'avais réussi à, ça y est, retrouver l'équilibre du bateau. Et donc, j'étais très contente. Et je pense aussi que ça rajoutait de la beauté au moment.
Donc mon premier Vendée Globe, ce carnet de bord, vous avez tenu donc votre journal, votre carnet, quoi, tous les jours. Une parenthèse indispensable, écrivez-vous. Quand vous l'avez relu, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a frappé ou pas?
Je l'ai relu au moment où il a fallu corriger les petites fautes d'orthographe et checker qu'on puisse vraiment le reprendre tel quel à l'identique dans un livre publié. Et je me souviens que j'ai eu des larmes. En fait, en le relisant, j'ai revécu un peu les émotions, les situations que j'ai pu vivre sur ce Vendée Globe. Et forcément, il y a des moments très très durs. Et c'est un petit peu plus loin dans le livre, donc ouais. je vais pas non plus spoiler, mais il y a un moment après qui est très très dur où j'ai eu peur. Je me souviens de ma sensation de froid. Je me souviens que c'était dur parce que c'était la remontée de l'Atlantique et tout le monde pense qu'on est arrivé. Dit oh, t'arrives bientôt. Non, il reste encore un tiers de la course. C'est encore loin, un mois. Et à ce moment-là, il m'arrive des trucs très très durs techniquement. Et en me replongeant dans ses écrits, j'avais des larmes.
Ah oui. C'était de vous replonger qui vous a pleuré ou?
Oui, c'est le souvenir en fait de ces moments. En fait, le cerveau est super bien fait. Et c'est pour ça qu'on y retourne en mer. C'est qu'on a des moments très durs, des moments intenses. Et on a aussi des très très beaux moments. Des moments magiques et de bonheur. Et en fait, quand on revient à terre, souvent les moments difficiles s'estompent dans les mémoires. Et on oublie très vite tous ces moments durs. Et on garde que les bons souvenirs. Et en fait, en relisant, je me suis rappelé à quel point ça avait été dur à ce moment-là. Et tout ce que je ressentais. Et ouais, c'était émouvant. Mais je m'en suis ressortie. Et puis j'ai réussi à continuer. C'est ça qui est chouette.
C'est ça qui ressort de vos écrits, hein, beaucoup. C'est l'esprit, le mental, la manière dont ça se passe dans la tête pour réussir, pour aller jusqu'au bout. Et vous écrivez dans mon esprit, l'âge n'est pas un obstacle. Et je me suis dit, est-ce que ça, c'est que sur le bateau ou c'est dans votre village? Allez, ça compte pas, moi j'y vais.
Oui, après, c'est aussi une force, l'âge. Le fait d'être jeune, c'est une force parce que je me suis appuyée sur ça pour monter mes projets et j'ai beaucoup d'énergie. Enfin, je pense que c'est vraiment une force. Donc, je le garde. C'est une caractéristique que j'ai mis en avant aussi sur mon projet Vendée Globe qui soutenait la jeunesse en difficulté. Donc, je parlais beaucoup de ça, de la jeunesse. Mais c'est vrai qu'en mer, parfois, je me dis, mais j'ai moins d'expérience que beaucoup, beaucoup d'autres marins. Comment ils font et je peux me remettre en question et en fait j'essaye en permanence de me rassurer et de me dire ben non en fait l'âge c'est pas un obstacle et non c'est une force, il faut l'utiliser même en mer, même quand on est face à des personnes hyper expérimentées qu'on fait trois fois ces océans et non faut, puis de toute façon l'océan c'est l'inconnu, on sait pas ce qui va nous arriver et même si on a beaucoup d'expérience on ne pourra jamais tout maîtriser. Mmh. Donc,
oui, il y a le facteur hasard et les cartes sont rebattues à chaque fois. Donc c'est ça que vous dites. Si je n'ai pas l'expérience, je vais compenser par...
Je ne sais pas, le fait d'aller déjà chercher des conseils chez les autres, d'apprendre, d'aller chercher l'expérience chez les autres. Et puis après, tout simplement par ma détermination en mer, je pense.
Violette, elle est déterre, c'est clair. Vous ne grandissez pas au bord de la mer, Violette d'Orange, mais dans un petit village de campagne en Charente, Pont-l'Abbé d'Arnoult.
Oui.
C'est ça? À quoi il ressemble ce village?
Pont-l'Abbé d'Arnoult, c'est un tout petit village où il y a 2000, 3000 habitants. On est entre La Rochelle, entre...
50 km de la mer à peu près?
Oui, c'est ça, à peu près. Et les souvenirs que j'ai de ce village, c'est surtout les souvenirs que j'ai à l'école, en fait.
Ah oui, ok. Souvenirs heureux de l'école?
Oui. Et puis,
vous étiez bonne élève?
Oui, il fallait. pour continuer le sport, il fallait. Oui, c'était un peu le deal qu'on avait fait avec les parents, c'est tant qu'à l'école ça va bien, vous faites toutes les compétitions que vous voulez, vous pouvez rater l'école pour aller faire les compétitions si vous devez rater l'école, mais ouais. Faut que ça fonctionne à côté.
Au début, Violette d'Orange, vous n'aimez pas la voile. Vous avez même voulu arrêter à un moment. Qu'est-ce qui fait que vous avez continué?
Je pense que c'est déjà les premières compétitions. Il y avait très peu de filles et du coup, il y avait le classement féminin à aller chercher. Et même parmi les garçons, je me débrouillais plutôt bien. Et du coup, les coachs me disaient, allez, mais il faut que tu continues, c'est trop génial. Regarde, tu peux aller chercher cette sélection, cette qualification. Et puis, je pense qu'il y a eu des premières opportunités où là, j'ai pu aller faire une course à l'étranger pour le championnat d'Europe, pour le championnat du monde. Il y a le championnat du monde à 13 ans. qui m'a beaucoup marquée, où je suis partie dans l'équipe de France. On était 5 enfants par pays en Argentine. Mm-hmm. Et c'était fabuleux. Et là, j'ai eu un vrai déclic. Je me suis dit, mais en fait, la voile, bah, même bon, s'il fait un peu froid parfois et qu'il faut mettre la combi mouillée, mais derrière, ça me permet de vivre des choses vraiment uniques, de voir d'autres nations. Et c'est en fait ce côté un peu vivre quelque chose d'exceptionnel, d'unique, qui m'a fait, je pense, accrocher.
Et ça, ça a été possible, ce déclic, parce que vous avez fait de la compétition très tôt. Vous adorez la compète.
Ouais, j'adore la compète, oui.
Mais dans tout, genre si on va jouer au ping-pong, là, vous allez vouloir gagner ou pas?
Bah, un peu, ouais. Un peu.
Attention, parce que moi aussi. Je vais pas vous laisser faire. Et Violette d'Orange, enfant, vous faites du judo. Il paraît que vous faites peur aux garçons.
Oui, oui. Bah, en fait, j'ai un grand frère qui a 3 ans de plus que moi. Mais quand on était petits, on était un peu comme des jumeaux et il passait son temps à me dire « Ah Violette, est-ce que... Viens, on se bat. T'arrives à monter, à grimper l'arbre. Est-ce que t'arrives à marcher sur les mains? Est-ce que t'arrives à faire du skate et faire telle figure? Regarde ce que je sais faire. » Et on était en permanence en compétition. Mais on passait notre temps à se chamailler. Et je pense que... Enfin, inconsciemment, on s'est entraîné en fait, en jouant. On était en permanence en compétition. Et du coup, quand j'arrivais à l'école et qu'on faisait, de l'athlétisme, mais là, moi, je voulais gagner sur tout le monde et j'étais à fond et ça fonctionnait, quoi, parce que en fait, à la maison, bah, c'était un entraînement permanent, quoi, et un challenge permanent.
Ah oui, il faut vous dire, t'es pas cap en fait.
Ah mais vraiment, c'était...
Ah ça, si on vous dit t'es pas cap, là, ça vous devenez dingue.
Challenger. On faisait la compétition à celui qui avait le plus de médailles, le plus de coupes. Donc on les comptait, on disait, ah, moi j'en ai une de plus ce week-end, à toi. Et heureusement, on n'était pas dans la même catégorie, parce que sinon, ça aurait pu être dur, il y aurait pu avoir un meilleur que l'autre ou quoi. Non, on avait choisi... nos parents ont eu l'intelligence de nous mettre pas sur les mêmes bateaux. Lui, il était en double avec un coéquipier, il gagnait tout. Et moi, j'étais en optimiste. Et en fille, je gagnais tout. Et en mixte, je me rapprochais quand même pas mal du début et ça fonctionnait bien.
Mais cette famille, ça, vous avez les parents, les grands-parents, je sais pas, qui sont là comme ça, à gagner des trucs
Ouais, un peu. Mes parents ont un peu la fibre sportive. Mon père a toujours aimé la mer, a toujours voulu avoir un bateau, tout ça. Donc, en fait, nous, comme on est nés proches de la mer, ils nous ont dit, allez, faut saisir cette chance-là. Et ils ont été hyper moteurs dans le fait de nous accompagner, de nous... En fait, ils ont jamais... Ce qui est bien, c'est qu'ils ont jamais pris le pli d'être coach, parce que ça, il y a des coachs dans les clubs, et leur but, c'est de juger notre navigation, de dire, là, t'as été bon, là, t'as été mauvais. Eux, en fait, mes parents, ils ont toujours été là, plus dans l'accompagnement, dans le fait de faire les trajets 2 fois, 3 fois par semaine, dans le fait de nous aider au début à avoir du matériel aussi, avec les clubs... Ouais, ils ont été plus là pour l'accompagnement, c'était hyper important. Et puis après, plus tard, mon père m'a aussi beaucoup aidé dans la recherche de sponsoring, parce qu'il adore monter des boîtes, monter des entreprises. Il a dû en monter 3, je crois, dans sa vie, en dehors de son métier de vétérinaire. Et on a travaillé ensemble pour monter les projets.
D'ailleurs, vous êtes très créatif, parce qu'un des premiers financements, notamment, je pense, pour aller en Argentine faire une compétition, vous créez des bracelets.
Oui,
c'est ça,
on avait fait ça.
Racontez-nous ça.
Bah, il m'avait...
Peut-être Rachida Dati nous écoute, ça l'intéresse, un bracelet, je ne sais pas.
Je ne me souviens plus exactement quel était le budget pour partir, mais il m'avait demandé de participer, en fait. Mes parents m'avaient dit, là, ça coûte un peu cher ton voyage en Argentine, et donc tu vas faire une campagne de crowdfunding, on va t'accompagner pour la monter, mais tu vas te... essayer de travailler là-dessus pour aider à financer ce projet. Et donc, on avait fait ça. Et je vendais des petits bracelets. Et ça m'avait permis de trouver, je crois, 1 000 euros.
Ah ouais.
Ouais.
Vous êtes une artiste. On va reparler de votre premier Vendée Globe, votre livre, Le Carnet de bord, où il y a aussi des dessins. Depuis l'âge de 8 ans, vous travaillez aussi avec une coach mentale, une préparatrice mentale. On a parlé de vos parents qui vous donnent la confiance. Vous travaillez cette confiance. Ça fait quoi d'avoir quelqu'un qui vous aide mentalement, qui vous coach quand on est enfant?
quand j'étais toute petite, c'était déjà des séances en groupe avec tout le club et on faisait plus du travail sur le stress. Et pour commencer, c'est d'abord avoir les bases de la préparation mentale. Donc au début, c'est vraiment apprendre à reconnaître les émotions, faire le schéma corporel. C'est quand, par exemple, pour s'endormir, quand on dit je détends mes pieds, ensuite je détends toutes mes jambes, je remonte jusqu'à la tête. Donc au début, c'est vraiment des bases comme ça. Et puis, on a commencé à vraiment travailler toutes les deux en perso au moment du lycée, quand c'est l'adolescence, qu'il y a plein de questions, qu'il y a manque de confiance en soi. Travailler, on était en équipage avec une coéquipière. Mmh. Donc on faisait des séances aussi avec ma coéquipière pour être soudée, pour être synchro sur tous les gestes qu'on faisait à bord et pour être toujours vers le même objectif. Et puis après, quand j'ai commencé la course large, là, c'était les peurs, le sommeil en mer, la gestion du temps en mer, la gestion de la solitude. Là, ça a ouvert vraiment tout le champ des possibles sur le travail.
Et ça, c'est inhérent à la voile, c'est-à-dire, vous dites, en club, très tôt, on travaille ça. C'est parce que ce n'est pas un sport comme les autres et qu'il y a les éléments et tout ça?
Bon, ça, c'est une idée de mon père.
Il a des bonnes idées, votre daron.
En fait, ma grande sœur faisait de la voile aussi. Et avec sa coéquipière, elles étaient rongées par le stress dès qu'elles étaient devant. En fait, dès qu'elles étaient premières dans la course, là, elle avait une sensation de se dire oh, on a la pression, faut tenir jusqu'à la fin de la course. Et en fait, elle paniquait, donc elle perdait des places. Et donc, on avait un copain sophrologue, un des premiers en France, parce qu'à l'époque, ça n'était pas du tout démocratisé. Mon père a dit on pourrait peut-être essayer une séance avec tout le groupe d'entraînement, etc. Et donc on a mis ça en place et moi j'en ai profité quand j'étais toute petite, mais ça a pris sens un peu plus tard pour moi.
Il y a une photo aussi dans votre carnet de bord qui m'a frappée. C'est votre traversée de la Manche en optimiste, vous avez 15 ans. Un optimiste, c'est une coque de noix, c'est tout frêle. Vous êtes dessus, vous avez 15 ans, et on voit à l'arrière de la photo, mais qui paraît tout proche, un porte-conteneur ou un cargo.
Un cargo, ouais.
Ouais, c'est incroyable. Et quand on a 15 ans, quand même, la plupart des parents, ils ont encore peur de voir leur enfant traverser la rue. Vous traversez la Manche, quoi. Eux, ils sont pas stressés, vos parents?
Si, pourtant, ils sont plutôt stressés. Ouais. Enfin, non, ils sont pas stressés. Mais ils peuvent être stressés dans ma vie à terre, par exemple, rentre pas tard le soir, les choses comme ça, ou fais attention si tu prends le vélo, mets un casque. Ils ont peur pour moi à certains moments.
Mais ils sont rassurés quand vous êtes sur un bateau? Comment ça se passe?
Mais je pense qu'ils ont confiance en moi quand je pars en mer. Ça s'est fait petit à petit, tout ça. En fait, on m'a découverte avec le Vendée Globe, mais c'est vrai que c'est une histoire qui commence depuis que je suis toute petite, où je suis partie en mer comme ça.
Vous avez gravi tous les échelons et passé par plusieurs types de bateaux. Oui. On parle de l'optimiste pour aller.
Donc je pense qu'il y a eu, enfin petit à petit, ils ont été aussi habitués à me voir partir, à lâcher prise, et puis aussi parfois on a brisé un peu la glace de se dire, il y a des risques, mais vous inquiétez pas, je fais ça parce que j'aime ça et parce que je veux partir et j'ai conscience des risques et je vais faire attention aussi. Enfin c'est aussi un pacte, une discussion qu'il y a eu avant les grandes échéances où là il y a vraiment un risque de vie sur certaines courses.
Bien sûr. Donc vous traversez la Manche à 15 ans. Résultat, vous êtes un petit peu moins paumé quand il s'agit de faire une traversée de Parcoursup pour trouver des études.
Je me posais beaucoup de questions. J'hésitais à faire peut-être vétérinaire ou à faire une école d'architecture. Ou peut-être j'ai toujours rêvé de faire un métier un peu artistique aussi. Mmh. Et puis il y avait aussi le métier d'ingénieur qui pouvait me permettre de continuer donc des études de haut niveau. J'adore les sciences et tout. Enfin, je suis à l'aise en mathématiques, etc. Donc pourquoi pas. Et puis surtout il y avait un vrai accompagnement. J'ai trouvé l'école l'INSA. Mmh. C'est une des seules écoles en France où il y a le pôle pour les sportifs. Enfin, c'est vraiment super ce qu'ils font.
Et c'était aussi parce qu'une école d'ingénieur, vous savez, ça vous permettait peut-être de vous projeter dans une grande course. Ça aide, en fait, ce que vous avez appris?
L'école d'ingénieur, elle permet d'avoir des compétences pour comprendre comment fonctionnent les systèmes à bord, pour comprendre un peu mieux l'électronique, le composite, pourquoi on va mettre plus de matière à cet endroit qu'un autre. Oui, ça permet d'avoir un vrai regard là-dessus. C'est en lien avec la voile.
Violette d'Orange, qu'est-ce que vous buvez quand vous sortez à l'apéro, vous?
Je dirais vin blanc.
Ah oui, voilà. Et d'ailleurs, quand vous passez l'équateur, la tradition, vous buvez un petit coup de muscadet là, pendant le Vendée Globe et vous amenez une petite fiole. Parce qu'il y a une tradition,
c'est
ça ?
Tradition, ouais. Oui, c'est la tradition. Chaque navigateur qui passe l'équateur doit faire une offrande à l'océan. Et ce qui est trop drôle, c'est que moi, ça m'est arrivé à 8h du matin. J'ai passé l'équateur. Enfin, je me réveille d'une sieste et là, je me dis, oh, c'est tout de suite là, c'est dans 20 minutes. Et là, j'ai eu un coup de panique parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'ouvre une bouteille, mais on va dire dans ma communication que je bois de l'alcool le matin, c'est pas bon, je suis censée être une sportive. Enfin, et puis j'ai pas envie de boire de l'alcool à 7h aussi. Et puis même mon bateau, j'ai jamais vu d'alcool en mer comme ça sur une course. Donc je panique un peu et puis je me dis, mais si je le fais pas, bah là, il y a tous les gens qui sont attachés aux traditions qui vont aussi me dire, bah non, tu respectes pas l'histoire des navigateurs. Et puis même moi, j'ai peur que le karma se retourne contre moi.
Neptune, il attend son petit coup de muscadet.
Bah oui, parce que l'objectif, c'est que derrière, les conditions soient bonnes dans l'hémisphère sud si on fait une bonne offrande. Et donc, j'ai appelé mes parents ce matin-là. Je dis, à votre avis, je fais quoi là? Parce que honnêtement, je sais pas trop. Et puis je me dis, bah, on sait pas trop. Et puis on s'est dit, bon, allez, je fais les traditions. J'en ai beaucoup donné à Neptune, du coup, bah, j'ai vu une belle offrande. Et donc, il faut faire offrande à Neptune, offrande pour le bateau et une goutte aussi pour le marin.
Ah, bah oui.
Charline Vanhoenacker, Bistroscopie sur France Inter.
Si vous nous rejoignez, nous prenons l'apéro avec Violette d'Orange. Et elle va nous embarquer avec nous grâce à son carnet de bord qui est intitulé « Mon premier Vendée Globe » qui est paru chez Gallimard, collection voile. Quand vous prenez le départ de ce Vendée Globe, vous avez déjà à votre actif 8 transatlantiques.
Oui.
Je pense que c'est ça. Hein.
Exact.
Cette fois, évidemment, rien à voir. Le Vendée Globe, ça, c'est 3 mois seul en mer, sans assistance. La sensation du départ, je me suis demandé, vous la ressentez véritablement quand? Parce que je me rends compte en vous lisant qu'il y a la dernière étreinte avec les proches, il y a libérer les amarres, il y a sortir du chenal, mais il y a encore plein de gens autour, etc. Et puis, il y a un moment, il y a le dernier membre de votre équipe qui saute à l'eau.
Ouais.
Et là, vous vous retrouvez vraiment seul. Je me suis demandé, est-ce que c'est progressif ou il y a un moment où, clac, vous dites « ça y est ».
C'est une bonne question. Déjà, c'est vrai qu'il y a le jour du départ, c'était intense en émotion. Je me souviens du matin quand j'ai quitté l'appartement et j'ai commencé à dire au revoir à d'abord mon copain parce qu'il devait partir lui aussi en déplacement ce jour-là.
En avion parce qu'il est dans côté marine mais avion et il vous fait coucou de l'avion d'ailleurs à un moment.
Ouais, voilà, il devait partir en mission ce jour-là tout pile. Donc dès le moment où j'ai quitté l'appartement, ça a été déjà très fort en émotion. J'ai commencé à pleurer et je pense que ça s'est terminé jusqu'à la fin du chenal. En fait, ce jour-là, tout est timé. Donc déjà, c'est on a toute une feuille de route à je sais plus quelle heure exactement, mais par exemple 10h13, je suis sur les pontons, j'arrive, je dis bonjour à ma famille, j'ai 10 minutes avec eux et je monte sur le bateau et c'est parti. Je dois même pas gérer la barre, je vais à l'avant du bateau pour profiter du chenal et voilà. Donc tout est vraiment timé comme ça et je pense que j'ai pleuré tout du long parce que c'était hyper fort en émotion. En plus, j'étais la dernière à partir, donc quand je suis arrivée sur les pontons, j'ai vu que sur l'écran géant qu'il y avait Louis Duc, je me souviens, un des concurrents qui étaient dans le chenal déjà, et je me suis dit, oh, ça va être mon tour. Enfin, c'est fou en fait, on a l'impression que ça arrive à quelqu'un d'autre, mais en fait non, c'est bien à moi que ça arrive et c'est un sentiment qui est vraiment hyper bizarre. Et puis bah là, quand j'arrive sur le ponton, bah, ma famille qui pleure, tout le monde pleurait, hein, même les organisateurs, les élus, enfin tout le public, tout le monde,
même
était...
le chien.
Non. Non, vraiment, c'était fou. Et puis, on se dit à dans 3 mois. Et puis, bon courage, quoi, l'année prochaine. Et puis, ensuite, le chenal. Un moment dingue, unique avec le public. C'est un moment où où on ressent l'énergie de tout le monde. Et là, je me suis dit, il faut que je le vive pleinement. Je prends toute cette énergie pour me donner de la force pour ces 3 mois. Et à partir du moment où j'ai quitté la fin du chenal, quand je suis arrivée sur la zone de course, là, je me suis mise dans ma bulle de compétitrice. Donc, on se reconcentre. On met les voiles, on regarde où est le vent, la direction, la force. Est-ce que c'est cohérent avec ce qu'on a pris comme information météo le matin ? Et on commence à établir la stratégie de départ. Et là, c'est un moment où je pense pas du tout au Vendée Globe. Je pense au départ. Il y a les 2 premiers équipiers qui sautent, à peu près 20 minutes avant le départ. Et puis 8 minutes avant le départ, il y a Damien Lebeau, capitaine, qui saute. Et là, ça y est, c'est parti. Le bateau est lancé. On est sur le rail. Heureusement, ce jour-là, il y avait pas du tout de vent. Donc, c'était pas du tout impressionnant de l'extérieur. Mais c'était très bien pour nous parce que ça nous a permis de nous mettre dedans tranquillement.
Donc, c'est progressif. Mais quand Damien, dans l'équipe, saute, vous êtes toute seule à bord. Et ouais. Ça y est.
Et puis, je pense après, quand il y a les derniers bateaux qui nous suivent, les dernières personnes du public qui nous lâchent, qui font demi-tour vers la terre, là, ça y est, c'est parti pour des mois de solitude en mer, mais de solitude heureuse en mer.
Il y a différents registres de solitude. Vous parlez de solitude heureuse.
Ouais.
Mais est-ce qu'il y a différentes manières de vivre la solitude ? Elle n'est pas toujours la même pendant 3 mois ?
Oui, déjà, c'est pas du tout la même que celle qu'on peut ressentir à terre. Il y a des personnes qui en souffrent vraiment et nous, c'est pas du tout ça qu'on ressent parce que on le choisit et puis on est en pleine course. Moi, je me sens, même si je suis seule sur mon bateau, je me sens entourée de ma famille que j'ai au téléphone une fois par semaine. Je me sens entourée des concurrents qui sont, même si je les vois pas, je sais qu'ils sont autour de moi, ils sont pas loin, qu'on vit les mêmes conditions météo, etc. Donc c'est pas du tout la même solitude. Après, il y a des moments où là on se dit ouais, c'est chaud, j'aimerais bien avoir un équipier, mais c'est plus non, parfois il y a de l'ennui aussi, un peu le manque manque à terre. Mais vraiment, c'est pas la même. Ouais.
Quand c'est pétole, vous écoutez votre playlist de musique.
Ouais.
Ouais. Donc la bande son, il y avait quoi ? Un peu de.
Beaucoup de Billie Eilish.
Ouais.
Un peu de tout. Il y a Lola Young qui a sorti sa chanson Messi pendant le Vendée. Alyosha, Charlotte Cardin, les Daft Punk. J'aime bien tout ce qui est électro, indé, tout ça, un peu calme aussi.
Et puis il y a les romans que vous téléchargez sur votre liseuse. Mm-hmm. Vous avez quand même pas mal lu.
Ouais.
Ouais. Le Comte de Monte Cristo.
Le Comte de Monte Cristo pendant toutes les mers du Sud. J'ai dû aller, c'est le moment de lire des classiques là, j'ai le temps.
Oui. Un privilège parce que vous aviez pas de yaourt, vous, à bord.
De yaourt ? Non, j'ai eu pas de yaourt, non.
Violette d'Orange, dans votre carnet de bord, vous dessinez une carte du monde et chaque jour, vous tracez un petit trait qui symbolise votre avancée.
Oui.
Donc, il faut être précis, c'est des petits traits, hein, quand même. je note, jour 6, c'est la pétole. Donc, il n'y a pas de vent et c'est tout plat. Et vous en profitez pour lire, prendre une douche. Oui, parce que les filles, on a des longs cheveux, démêlés, tout ça, c'est quand même en mer.
C'est compliqué.
Ah oui, ça, c'est quand même un poste important. Et cuisiner, bien sûr, et là, vous écrivez. J'ai cuisiné des pâtes au pesto et j'ai compris pourquoi il ne faut pas mettre les pâtes avant que l'eau bouille. C'est-à-dire, la meuf, elle fait le Vendée Globe, elle fait le tour du monde, mais la cuisson des pâtes, c'était pas...
Mais vous avez déjà essayé. En fait, moi, je sais qu'il faut les mettre quand l'eau bouille, mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il faut absolument faire ça. Mais en fait, j'ai fait le test en mer parce que je me suis dit il faut économiser un peu le gaz, je vais mettre dès le début, ça va le faire. Et en fait, j'ai compris pourquoi il faut surtout pas faire ça, sinon elles sont toutes molles à l'extérieur et puis dures à l'intérieur, enfin c'est ça, pas de goût, pas bon quoi.
Repas raté. Le repas de la pétole au pesto était raté. ça m'a fait rire, vous écrivez bouille.
Ah oui.
C'était très marrant. Vous dessinez aussi un trèfle à 4 feuilles, c'est vos 4 objectifs. Ouais. Un pour chaque cap à passer. Mmh. Donc, le poteau noir, le cap de Bonne-Espérance, j'espère que je l'ai dit dans le bon ordre, le cap Lévin, on dit comme ça, et le cap Horn.
C'est ça.
Est-ce qu'on peut rapidement, avec vous, passer ces 4 caps ? Parce que nous, c'est fastoche, là. Hop, en 2-2, comme ça.
Ouais, bien sûr.
Alors, souvenir du poteau noir.
Le poteau noir, je me souviens que c'est un moment qui... J'appréhendais un peu. Mmh. On est en... pile en plein milieu de l'océan Atlantique. Et c'est un moment où où je sais que le vent va être compliqué parce que c'est un, dans le temps, les marins, ils restaient plantés dedans. Ils pouvaient rester plantés dedans des semaines et des semaines parce qu'ils ne trouvaient pas la sortie. En fait, il n'y a pas de vent dans cette zone, ou alors il est très irrégulier. Et du coup, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je ne savais pas à quoi ça allait ressembler. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai vraiment vu une barrière noire devant moi, et je suis allée en dessous. Je me suis dit, est-ce que je vais me prendre une tempête, est-ce que je vais me prendre du vent hyper fort? Et en fait non, juste le vent s'est calmé.
C'est très amusant parce que je vous ai suivi, bien sûr, je vous revois, et à chaque fois qu'il y a un truc énorme qui arrive, vous avez un smile pas possible et vous faites oh là là, bah dites donc, il y avait une grosse barrière noire. C'est incroyable. C'est votre philosophie de vie, vous abordez les choses comme ça, ou c'est comme ça que vous les... Vous les raconter ensuite, parce que...
Non, parce que vous êtes en mer, j'essaye vraiment de les aborder comme ça. Il faut, parce que il y a des moments, faut pas paniquer. Faut se dire, tout va bien.
Ouais.
On maîtrise la situation, et non, il faut garder un peu le sang-froid. Mais c'est un apprentissage, en vrai, ça, c'est pas inné, on va dire.
Ah oui, j'imagine bien, oui. Le cap de Bonne-Espérance.
Bah là, c'est l'entrée dans les mers du Sud. Mm-hmm. Donc, c'est des mers qui sont costauds. Il y a beaucoup de vent, des tempêtes à la suite enchaînées. Il y a un ensemble d'éléments qui font qu'à cet endroit, c'est compliqué. Et ça loupe pas. Hein. Le moment du passage de Bonne-Espérance, je crois que je le vois même pas. Tellement je suis concentrée à être sur les manœuvres, sur la gestion de la tempête. Et en fait, c'est le lendemain où je me dis, ah oui, j'ai passé. Ou le soir où je vois que j'ai passé, mais je le fête le lendemain avec. Je me dis, allez, ce soir, petite chips, parce que ça y est, j'ai passé le Cap Horn. Mais...
le Cap Lewin.
Le Cap Lewin, c'est.
Ah, ça s'écrit. On dit Lewin.
Personne ne sait trop. Hein.
Non. Donc là, on est. C'est quoi? C'est.
On est.
Austral?
On est en Australie,
ouais.
C'est au sud de la... Non, c'est pas au sud de la Tasmanie. Non, c'est à la pointe sud-ouest de l'Australie. Et le Cap Lewin, c'est un moment où c'est cool. Là, c'est... Je sors de l'océan Indien, enfin, parce que l'océan Indien, et c'était 15 jours de tempête non-stop. Je m'en suis pris peut-être 5 sur la figure, et donc il fallait les gérer, c'était dur. Et là, au niveau de l'Australie, le vent s'est beaucoup calmé. La mer aussi, je suis passée de 5 mètres de houle à plutôt une moyenne de 3 mètres. Et là, j'ai pu prendre soin de moi, me reposer un peu, réparer un peu le bateau pour toutes les casques que j'ai eues, tout ce qui m'est arrivé dans l'océan Indien. Et c'était un moment où j'étais juste trop contente parce que ça voulait dire que j'allais bientôt changer d'océan et passer au Pacifique. Ah
ouais. Ça, c'est le Cap Cool, donc, le Cap Lewin. Et le Cap Horn.
Et le Cap Horn, un passage compliqué parce que j'ai dû attendre avant le Cap Horn. J'ai dû, je le raconte aussi dans le carnet, mais il y a une tempête qui s'annonce et je me dis que ça ne va pas le faire. Je ne vais pas tenir dans cette tempête parce qu'il y a écrit... 50 nœuds en moyenne, rafale à jusqu'à 55, si je me souviens bien. Et en fait, je me dis, ça va pas le faire parce que généralement.
55 nœuds, c'est quoi l'équivalent?
C'est fois 1,8.
Ah ouais.
Donc c'est à peu près 80 km, 90. Et puis la mer peut aussi monter jusqu'à 10 mètres. Donc à ce moment-là, j'ai pris la décision de ralentir, de passer 3 jours après. J'ai perdu des places par rapport aux concurrents. Mais je voulais juste protéger le bateau et arriver à la fin de ma course. Donc c'était une décision difficile. Et puis le jour du passage du Cap Horn, c'était très beau. Il y avait beaucoup d'albatros autour de moi. Je pense qu'il y a une zone où c'est un endroit où il y a la terre pas loin. Donc peut-être qu'il s'arrête, je ne sais pas exactement. Mais c'était assez beau de voir tout ça. La mer était trop belle. Des vagues assez impressionnantes, mais c'était beau. Et puis après, c'était le changement, le retour dans l'Atlantique.
Quel moment vous avez croisé un peu éventuellement les stigmates du changement climatique?
Le pire, c'est les sargasses, je pense. Il y a en fait une prolifération des algues qui s'appellent les sargasses dans l'Atlantique, proche de l'équateur et puis dans les alizés. Et ça, c'est vraiment. On voit l'évolution tous les ans et ça fait. Enfin, on voit que c'est une vraie prolifération qui est due à la pollution et qui est due au réchauffement des océans. Et puis parfois on voit des déchets. J'ai eu des bouts de plastique qui se prenaient dans les appendices du bateau. Ouais, je pense que c'est surtout ça, des bouts de plastique. Et puis, ou même quand on voit des cargos, la quantité de cargos qui existent dans le monde et qui font des trajets en permanence, et quand on passe derrière et qu'on sent le kérosène, enfin le gasoil de ces cargos, oui, on se rend compte de tout ça.
Et puis, en pleine traversée, vous commencez à mesurer que votre notoriété grandit. Violette d'Orange, mesurable au nombre de followers. Vous avez une équipe, évidemment, à terre qui s'occupe de vos réseaux. Et vous dites, du jour au lendemain, tout le monde veut un petit bout de toi.
Oui, à la fois, c'est une vraie victoire parce que ça fait des années qu'on travaille sur la communication, quand j'essaye d'être la plus créative possible, de parler, de vulgariser, de vraiment faire quelque chose pour le public et pour le partager au plus grand nombre. Ouais. Et ça pour, d'un côté, trouver les financements, monter mes projets, que mes sponsors s'y retrouvent, mais aussi pour parler de la cause, de la Fondation Apprenti d'Auteuil, cause de la jeunesse en difficulté. Et donc, c'est une vraie victoire parce que voilà, ça fait des années qu'on travaille là-dessus. Et puis, d'un autre côté, il faut arriver à le gérer émotionnellement et dans ma vie de tous les jours. Et quand j'étais en mer, déjà, je commençais à me poser des questions.
Oui. Bah oui, vous nous l'avez évoqué tout à l'heure en disant est-ce que je sors le muscadet ou pas, quoi, déjà.
Oui,
oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, au milieu de l'été dernier, vous avez un peu pris vos distances avec les réseaux sociaux en disant à un moment, j'arrête un peu. La course au like. Et à un moment, vous avez vraiment senti en vous, là, il faut que je stoppe.
En fait, cette année, c'était un peu de la folie. Hein. Je suis arrivée du Vendée Globe, j'ai enchaîné avec des semaines de médias. Complète où je continuais les micro-siestes entre les interviews où tellement j'étais fatiguée et qu'il fallait tenir. Et en fait, il y a eu ça, j'ai fait des rencontres, par contre, j'ai fait des rencontres magnifiques et j'ai eu plein d'opportunités. On en parlera peut-être après, mais j'ai pu rebondir sur un projet magnifique en 2025.
Allez-y, mais oui.
Avec Samantha Davis sur Initiative Cœur, et ça, c'est le projet de mes rêves. Donc, j'ai eu plein de choses qui sont arrivées. J'ai rencontré Mike Horn, qui pour moi est mon exemple depuis toute petite. À côté de ça, il faut aussi que j'arrive à trouver l'équilibre. Et là, cette année, je pense que c'était vraiment ça. J'avais besoin de faire une pause parce que j'avais mal géré mon équilibre, je pense, en ce début d'année.
Ouais.
Et franchement, la notoriété, je trouve que c'était cette année, c'était incroyable ce qui m'est arrivé. Et puis après aussi, quelque chose qui est important de rajouter, c'est que je termine 25e. On était 40 navigateurs sur le Vendée Globe. Mon histoire a été assez médiatisée, mais en fait, il y a aussi plein d'autres navigateurs qui ont fait des courses incroyables. Notamment, bien sûr, il y a Charlie Dalin qui gagne le Vendée Globe, qui a une histoire de santé pendant son Vendée Globe qui est très touchante. On a tellement de respect pour lui. C'est incroyable.
Qui a lutté contre le cancer pendant sa traversée. Est-ce qu'il y a des blagues de voileux ?
Je ne sais pas. Souvent on me dit ça peut paraître bateau, c'est pas pour le jeu de mots. On me le fait tout le temps, ça.
C'est pas vrai.
Si, vrai, à part ça.
Violette d'Orange, on arrive doucement à la fin de cet entretien. Vous préparez le prochain Vendée Globe, j'imagine ?
Oui.
Ouais ?
Ouais, ouais, ouais. C'est mon rêve de pouvoir le refaire une deuxième fois et peut-être sur un bateau à foil.
Ok. Donc le foil, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sauraient pas,
c'est comme des petites ailes d'avion qui plongent dans l'eau et qui sont sur les côtés du bateau et qui permettent vraiment de le surélever au-dessus de l'eau. Et donc le bateau n'a plus les frottements de l'eau et il prend des vitesses qui peuvent aller x2, x3. C'est un peu des fusées des mers, des Formule 1 des mers.
Donc vous y travaillez en ce moment et ce sera le départ en 2028. C'est ça ?
Oui, c'est ça, j'espère. Enfin, ouais.
Bah ouais. Ah bah on espère aussi, on est derrière vous, Violette. Et alors là, on va se quitter. C'est quoi le prochain départ en mer, là même pour le loisir la prochaine fois que vous partez sur l'eau, c'est...
Le gros objectif de l'année, c'est de pouvoir faire la route du Rhum. Et du coup, je suis un peu en recherche de partenariat en ce moment. S'il y en a qui écoutent. Hein.
Allez-y, lancez un appel. Bien sûr.
N'hésitez pas à nous contacter si ça vous intéresse. Mais on est...
La route du Rhum, donc ça, c'est quand ?
C'est le 1er novembre.
C'est cette année
un des événements phares. Il y a le Vendée Globe, la route du Rhum, c'est vraiment une course traversée de l'Atlantique en solitaire, et donc voilà, c'est une très belle épreuve.
Donc maintenant, vous savez comment cuire les pâtes. Donc on est bon.
Ça, c'est bon. Je suis prête.
Ok.
Ouais, check.
Et on va finir sur la route du Rhum pour l'apéro un samedi soir. C'est parfait.
Parfait.
Merci Violette d'Orange.
Merci beaucoup. C'était trop chouette.
Mais ouais, c'était un plaisir. Bon vent, comme disent les marins.
Merci.
Ainsi s'achève Bistroscopie. Merci à tout son équipage. La chargée de programme Ophélie Vivier, réalisatrice Anaïs Reynard, à la technique Christophe Papon, au mixage Rémi Sistiaga, à la documentation Rodolphe Meunier et à la programmation musicale Djoubaka. Je vous retrouve samedi prochain à 19h20.